Le Christian Psy Show sur RMC Info.
Pascal Frossard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8, Vincennes et Saint-Denis. Elle a effectivement, dans une société qui communique, qui ne cesse de communiquer, la rumeur va montrer. Et derrière la rumeur, finalement, la rumeur est souvent prise au premier degré.
Souvent, oui. Et il est d'autant plus difficile d'en faire des théories.
Oui.
Et pourtant, j'ai essayé depuis quelque temps de faire des théories. J'ai même pondu un ouvrage dessus. Et malgré moi, je me rends compte que plus on étudie ce sujet-là, et moins on en sait.
Il y a des rumeurs quand même terribles qui ont couru. Par exemple, la rumeur d'Orléans, il y a très longtemps, où on disait que des femmes étaient kidnappées dans les salons d'essayage. On y retrouvait des jeunes filles et qu'on les prostituait à l'autre bout du monde. Enfin, toutes sortes de rumeurs comme cela, des kidnappings d'enfants qui n'avaient jamais lieu. Ça existe, ça ?
Les rumeurs existent, sûrement, oui. La traite des blanches, je ne suis pas un spécialiste. Ce qui est assez fascinant, c'est de remarquer que dans le cas de ces rumeurs-là, qu'on dirait sociales, comme, je ne sais pas moi, la deuxième fille de Mitterrand, ce sont des rumeurs qui ne circulent vraiment bien que si les médias s'en font l'écho. Et c'est ça qui nous rend tout à fait étrange. C'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment, notre émission est en train de diffuser très largement les rumeurs qui, autrement, resteraient secrètes ou des bruits de couloir.
Mais dites-moi, je vais plus loin. Est-ce que les gens de communication, spécialisés dans la communication, les hommes politiques notamment, ne font pas eux-mêmes courir des rumeurs pour nuire à leurs adversaires?
Ils pourraient. Le problème, c'est qu'on maîtrise, c'est un petit peu comme la guerre bactériologique, on maîtrise assez mal les effets retours, les effets boomerang. Et il n'est pas rare de voir des rumeurs qui se retournent contre la personne qui les a lancées. Donc,
par exemple, vous avez un exemple?
Non, parce que justement, ce sont des rumeurs qui restent très cachées. La plupart des acteurs qu'on rencontre disent toujours qu'ils se méfient trop de la rumeur pour l'utiliser en temps réel, dans la vraie vie. Ceci dit, la tactique du ballon d'essai, la tactique de la désinformation, de la manipulation, sont des choses très, très efficaces. Mais ça échappe totalement au champ de la rumeur et au seul champ des médias, en fait.
Mais ce qui est bien, et dans votre livre, vous l'expliquez, c'est d'aller au bout de cette rumeur. Par exemple, la rumeur d'Orléans, on est allé au bout. Derrière tout cela, il y avait quoi? De mauvaises intentions? C'était du racisme? C'était pour récupérer des marchés? C'était quoi?
Il y avait certainement un peu de tout. À la base, il y avait tout de même un discours dans des revues, c'est-à-dire l'histoire de la rumeur d'Orléans, cette histoire d'enlèvement dans les cabines d'essayage, n'est pas née de l'imagination des gens. Elle est née d'auteurs de seconde zone, probablement. Enfin, je ne les connais pas, donc je ne peux pas vraiment les qualifier, mais qui écrivaient dans des revues comme un petit peu comme Le Détective d'aujourd'hui ou comme Allopolis. Et ces revues étaient lues, certainement. Enfin, en tout cas, on en retrouve des traces. Et les gens d'Orléans, comme les gens de la France entière, parce que c'est une rumeur qui a circulé dans la France entière, ont lu ces revues-là et se sont mis à croire à cette histoire-là. Mais comme on croit à d'autres choses, on croit à la sorcellerie encore aujourd'hui, on croit...
Il y a l'effroyable imposture, qui est une imposture en elle-même, qui est incroyable, parce que finalement, d'abord, ce livre s'est vendu énormément.
Ouais.
Donc les gens ont apporté un certain crédit à ce qui a été dit, quand même très très grave, à expliquer que finalement les États-Unis sont les artisans de ces attentats et que les islamistes n'ont rien à voir là-dedans. On voit bien que là, quand même, il y a un point d'orgue essentiel, ça s'appelle le journalisme d'investigation. Il y a ceux qui sont capables d'aller au bout, qui tentent de trouver la preuve, et puis ceux qui colportent n'importe quel bruit, et là, ils ont une responsabilité.
Ah, vous avez tout à fait raison. Mais ça, c'est le grand mythe de parmi les journalistes et parmi les gens des médias, c'est l'investigation. C'est pas un mythe au sens où ça ne se fait pas. C'est plutôt une espèce d'utopie que tous les journalistes ont, qui consiste à dire « moi, je vais chercher l'information, moi, je vais aller découvrir la vérité ». Or, lorsqu'on fait des études, on se rend compte qu'au minimum 80% des informations qu'on entend à la radio, à la télé et partout sont des informations qui ont pour source des sources officielles, ça veut dire donc des ministères, des organismes officiels, ce qui rend l'investigation...
Les agences de presse ?
Les agences de presse elles-mêmes se nourrissent énormément d'informations officielles. Par conséquent, c'est pour ça que je parle de mythe, et enfin, il y a toute une sorte d'école critique en ce moment de l'information et des médias qui prétend que justement les médias sont mal placés pour parler d'investigation. Les gens qui font l'investigation sont extrêmement rares. Et ce sont des héros, bien sûr, mais ce sont les héros de la profession. Et face à ça, il y a énormément de journalistes qui rêvent un jour du scoop qui les rendra célèbres. Mais il y en a un pour mille, un pour...
Alors, ce qui est intéressant, par exemple, à la télévision, cette fameuse histoire dans l'école des fans avec Jacques Martin, je ne sais pas si c'est vous qui le dites, mais j'ai trouvé peut-être dans un autre livre, vous en parlez peut-être, où finalement, la petite fille dit « oui, maman, elle fait la sieste le mercredi d'après-midi avec tonton, c'était une histoire bidonnée.
Totalement bidonnée, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas totalement... Parce qu'il y a eu effectivement un incident de ce type-là dans une émission de Jacques Martin, mais là où les chercheurs peuvent dire « Attention, c'est une rumeur », c'est parce qu'on en retrouve, il y a une vingtaine d'années, dans des émissions américaines, une ce qu'on appelle une occurrence, une trace, hein, il y a 20 ans, et donc on en conclut que si ça s'est passé il y a 20 ans, ça s'est probablement pas passé il y a 5 ans en France. C'est peut-être pas tout à fait vrai non plus. C'est pas parce que des choses se sont passées il y a 20 ans qu'elles ne peuvent pas se repasser.
Mais là, les limites de l'honnêteté, on les trouve très bien, parce que d'abord, il n'y avait pas besoin de ça pour l'audience, c'est vraiment essayer de faire un coup de pub à l'émission pour qu'on en parle. Hein. On sait très bien que dans ces cas-là, c'est repris dans la presse. Ça fait de la pub gratuite, on peut dire les choses comme ça. Et c'est quand même relativement malhonnête de fabriquer quelque chose comme ça, parce que finalement, c'était des acteurs. C'était quoi dans cette histoire-là?
Non, mais à la base, l'histoire, elle est drôle, non?
Oui, d'accord, mais... Oui, plus ou moins, mais en fait, bon, le père n'était pas le père. Enfin, il a pas vraiment cogné sur l'oncle.
Ah non, mais cette histoire-là n'a jamais été diffusée.
Oui, d'accord.
Donc, c'est une belle histoire qui se raconte sur une émission qui avait son charme et qui avait son, son public. Donc, c'est une histoire...
Justement, il n'avait pas besoin de ça, de faire courir cette histoire.
Ah, mais probablement, Jacques Martin n'a rien à voir dans l'histoire.
Ah, d'accord.
Probablement. Je ne suis pas spécialiste non plus, mais...
Non, mais tout à fait.
C'est là aussi où comment dire, on ne peut pas demander non plus aux universitaires de se transformer en policiers, parce que c'est vraiment une sorte d'enquête de police qu'il faudrait faire. Mais je crois qu'il faut admettre que nous vivons dans des sociétés où on aime bien croire aux choses. Moi, je veux volontiers croire que, je sais pas, les avions ne sont pas tombés sur Washington. Pourquoi pas? C'est une jolie croyance.
Dites-moi, finalement, les mythes fondateurs de l'humanité ont été fabriqués à partir d'histoires, de bribes d'histoires, et on a échafaudé une histoire autour de ça.
Exactement.
On est dans notre inconscient collectif, cher Jung, imprégné de tout cela.
Oui, alors là, vous partez dans la psychanalyse.
Un petit peu, quand même. Oui. Parce que, attendez, avoir besoin à tel point, vous le dites, c'est vous qui le dites.
Oui.
Vous dites cela, avoir besoin, finalement, de s'inventer des histoires, ça correspond à quelque chose. L'imaginaire a besoin de fonctionner.
Oui, moi, je n'ai pas besoin de l'hypothèse inconsciente, disons, mais vous avez tout à fait raison. Je crois, honnêtement, que nous sommes dans des sociétés où on aime croire. Ouais. On aime croire au petit chaperon rouge quand on est enfant. On aime croire, je ne sais pas, à Jacques Martin qui révèle des adultères involontairement. On aime croire à l'avion de Washington qui n'existe pas. Ça ne veut pas dire, par exemple, que je cautionne tout à fait la thèse de Thierry Messon ou la thèse du petit chaperon rouge, mais je crois que nous avons cette faculté qui est de se laisser rêver, même dans des histoires d'horreur. Quelquefois, on paye 8 € pour aller voir une histoire d'horreur au cinéma. Eh bien là, une rumeur bien sentie, c'est le même genre de trip ou d'émotion qu'on ressent pour Pinron, et c'est bien agréable.
Tout à fait, mais là, je suis complètement d'accord avec vous, à condition de ne pas être dupe et de n'avoir conscience, et après tout, à ce moment-là, c'est marrant.
Pourquoi les gens seraient-ils dupes? Je ne sais pas.
Je me pose la question.
Non, mais ça, c'est toutes les études nouvelles en communication montrent que les gens qui regardent la télévision, qui écoutent la radio, sont bien moins dupes qu'on le pense. Au contraire, ils interprètent les choses, ils en discutent. L'un des indices les plus simples, c'est simplement qu'on regarde très très peu la télévision seule, et on écoute rarement la radio seule, c'est-à-dire seule sur le moment peut-être, mais on en discute avec ses collègues avant ou après, on en parle avec sa famille. Donc ce ne sont pas des activités solitaires, les médias. Par conséquent, il y a juste une activité sociale des médias, et il ne faut jamais l'oublier, en fait.
Merci beaucoup, Pascal Froissart. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8, et que vous avez écrit « La rumeur », on ne peut pas trouver mieux comme titre, « Histoire et fantasmes », un livre tout à fait intéressant, des bas Belin, c'est l'édition Belin. Il faut l'acheter, il y a beaucoup de choses importantes à apprendre avec une importante bibliographie.
Et dis donc, Christian, tu connais La rumeur sur Pascal Froissart?
Non.
Tu la connais pas?
Non, c'est laquelle?
Il y a une rumeur qui court sur lui, hein, apparemment.
Laquelle?
Il se passe des choses bizarres, quoi, chez lui. j'ai entendu dire ça, donc je sais pas, faudrait peut-être essayer d'approfondir la chose, parce que...
C'est l'humour.
En tout cas, s'il y a bien quelque chose de sûr concernant Pascal Froissart, on terminera là-dessus, c'est qu'il a un site internet.
Ah oui.
Les références seront sur rmcinfo.fr, un site qui s'appelle Rumeurs et Rumorologie, et qui est très bien fait. Voilà.
Mais non, c'est une rumeur, tout ça, faut pas écouter.
Merci beaucoup, Pascal Froissart.
Merci.
Et bonne journée à vous.
Merci beaucoup, au revoir.